bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Louis Drillon, Cédric Fuentes et Julien Rosa. À la réalisation, Marie Placé, prise de son, Florent Bujon.
Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Bessery.
Dernier jour de notre semaine d'investigation sur les fruits du capitalisme. Cette semaine, nous avons mené l'enquête du semis à la récolte et de la production à la consommation sur les traces de produits phares du système agro-industriel. La banane, la tomate, l'huile de palme, autant de fruits ayant muté et navigué au gré des vagues du capitalisme et de ses exigences. Et l'expérience révèle à quel point la relation entre économie et écologie est symbiotique et lie la question de la rentabilité à celle de la durabilité des ressources et de la terre. Alors, comment réconcilier les cycles de la nature avec ceux de l'économie et quelles initiatives tentent de le faire? Ce sont ces alternatives capturées par les caméras de quelques documentaristes engagés qui vont nous occuper aujourd'hui jusqu'à 15h. Vous êtes sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de documentaire optimiste en compagnie de Marie-France Barillet, journaliste et documentariste, réalisatrice du film Le Champ des Possibles, diffusé sur France 5 et disponible librement sur Internet. Avec nous aujourd'hui Pierre Fromentin, réalisateur et photographe, auteur avec l'association Agro et Sac à dos du documentaire intitulé Ceux qui sèment, qui est également disponible en ligne, et Hélène Mehdi, qui va bientôt faire son entrée dans le studio, réalisatrice, scénariste et comédienne. Et réalisatrice du film On a 20 ans pour changer le monde, produit par François Charlin. Actuellement au cinéma. Bonjour à tous. À 14h50, vous retrouverez les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade.
L'humanité ne cultivait presque plus rien en terre. Légumes, céréales, fleurs, tout cela poussait à l'usine, dans des bacs. Les végétaux trouvaient là, dans de l'eau additionnée, des produits chimiques nécessaires, une nourriture bien plus riche et plus facile à assimiler que celle dispensée chichement par la marâtre nature. Des ondes et des lumières de couleur et d'intensité calculées, des atmosphères conditionnées, accéléraient la croissance des plantes et permettaient d'obtenir, à l'abri des intempéries saisonnières, des récoltes continues du 1er janvier au 31 décembre. L'élevage, cette horreur, avait également disparu. Élever, chérir des bêtes pour les livrer ensuite au couteau du boucher, c'était bien là des mœurs dignes des barbares du XXe siècle. Le bétail n'existait plus. La viande était cultivée, sous la direction de chimistes spécialistes, et selon les méthodes mises au point et industrialisées du génial précurseur Carrel, dont l'immortel cœur de poulet vivait encore au musée de la Société protectrice des animaux. Le produit de cette fabrication était une viande parfaite, tendre, sans tendons, ni peau, ni graisse, et d'une grande variété de goûts. Non seulement l'industrie offrait aux consommateurs des viandes au goût de bœuf, de veau, de chevreuil, de faisan, de pigeon, de chardonnay, d'antilope, de girafe, de pied d'éléphant, d'ours, de chamois, de lapin, d'oie, de poulet, de lion et de mille autres variétés, servies en tranches épaisses et saignantes à souhait, mais encore des firmes spécialisées, à l'avant-garde de la gastronomie, produisaient des viandes extraordinaires qui, cuites à l'eau grillée, sans autre addition qu'une pincée de sel, rappelaient par leur saveur et leur fumée les préparations les plus fameuses de la cuisine traditionnelle, depuis le simple bœuf miroton jusqu'au civet de lièvre à la royale.
C'était un extrait de Ravage, le texte de René Barjavel, lu par Julien Rosa de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Vous entendiez un texte de 1943. Et justement, Marie-France Barillet, qu'est-ce que vous inspire ce monde décrit dans lequel beaucoup de choses n'existent plus, ont été substituées par une fabrication scientifique et industrielle, notamment de la viande?
Ce que ça m'inspire, c'est qu'il faut surtout se mettre en mouvement et en branle collectivement pour éviter que cette description ne devienne réalité et que ça reste comme une façon de nous prévenir des éventuels dangers, de ce qu'on pourrait perdre collectivement si on n'était pas attentif à ce qui se passe aujourd'hui et au fait qu'on a un moment de bascule dans notre société et vie collective et que moi je pense qu'il faut réagir à ce genre de... Enfin, les écouter avec attention, mais réagir en disant bon ben... Faisons en sorte que ça n'arrive jamais.
Hélène Médig, quand on lit ses propos, on se dit aussi que si on retourne un petit peu en arrière, c'est aussi une lecture rétrospective qu'on en a, c'est aussi un monde qui a fait fantasmer, celui dans lequel la science serait capable de faire, de nourrir plus de monde, de faire gagner beaucoup de temps, de produire plus pour une population croissante.
Comme c'est dit dans mon film, c'est un mensonge ça, en fait. Cette industrialisation de l'agriculture, elle est née pour de mauvaises raisons. Elle est née après la guerre pour de mauvaises raisons. Et comme le dit Nicolas Hulot dans mon film, notre conscience est à la traîne de la science. Parce que oui, la technologie nous offre des choses merveilleuses, mais pas du tout en ce qui concerne notre agriculture, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, si les agriculteurs sont si malheureux, ne trouvent plus de sens à leur métier, si encore ça marchait. Mais en fait, cette agriculture industrielle, elle est à bout de souffle aujourd'hui. Au-delà de détruire nos sols, de détruire notre biodiversité, de détruire notre santé, elle permet plus aux agriculteurs, et c'est un agriculteur conventionnel qui le dit dans mon film, il dit aujourd'hui c'est à bout de souffle, il faut inventer un autre monde.
Pierre Fromentin, on ne peut pas s'empêcher, quand on regarde vos trois documentaires, de faire le rapprochement justement entre cette période, alors là le texte est de 43, juste avant, mais de 30 glorieuses dans lesquelles le capitalisme aussi a pris son envol, avec justement cette agriculture devenue très très intensive, comme si finalement les deux mouvements avaient été complètement liés.
Oui, c'était surtout la période entre les deux guerres, après la Seconde Guerre mondiale, où là il y a eu une nécessité très forte de nourrir la population française, et donc il a fallu rapidement répondre à un besoin national, et donc c'est passé par une industrialisation très forte, et ça c'était essentiel à cette époque, et les agriculteurs, les acteurs de cette industrie ont fait ce qu'ils avaient à faire, et ils l'ont bien fait. À l'époque c'était un bel exemple, mais le problème c'est qu'on est toujours sur le même modèle agricole aujourd'hui en 2018 que dans les années 70.
Alors peut-être ça vaudrait le coup de le détailler, ce modèle. Est-ce que c'était l'idée de finalement résoudre la question, les problèmes, les questions sociales en amont des questions écologiques, ou est-ce qu'on n'était pas au courant des dangers en réalité qui accompagnaient ce développement intensif avec les engrais qui vont avec?
Je pense qu'au début on n'était pas trop au courant, et ceux qui étaient au courant ne voulaient pas trop que ça se sache publiquement, sauf qu'au bout d'un moment, les gens, le public, les journalistes font leur travail, et donc on a été de plus en plus informés sur ces problèmes-là, mais les lobbies ont fait ce qu'ils pouvaient pour retarder l'échéance, mais on sent vraiment aujourd'hui qu'il y a un tournant chez la population, un besoin de se reconnecter avec la terre, d'avoir accès à des produits de plus en plus sains, et les pesticides, les intrants qui sont envoyés dans les terres aujourd'hui ne passent plus inaperçus. Quand on envoie des pesticides à côté de Bordeaux, quand il y a des écoles juste à côté des vignes, par exemple, les parents ne sont pas très rassurés, alors qu'il y a peut-être 30-40 ans, ils ne se posaient pas trop de soucis.
Alors vous avez à la fois fait tous les trois des documentaires assez optimistes, avec l'idée de qu'il y avait des alternatives possibles à ce modèle industriel et agricole, et en même temps on retrouve ce procédé de l'enquête de terrain chez vous trois. Alors pourquoi Marie-France Barrier par exemple, pourquoi cette diversité justement dans le documentaire, et pourquoi ce procédé d'ailleurs même du documentaire?
Ben, je pense que c'est une question de l'idée de renouveler un petit peu le principe de l'enquête, qui en fait est très ancré dans notre paysage audiovisuel et qui marque cette tendance qu'on a à vouloir enquêter, dénoncer, alerter, qui est très positive et qui fait que justement, que ce soit pour l'évasion fiscale ou l'usage de pesticides ou de autres, maintenant on est alerté parce que les journalistes font ce travail-là, mais j'ai le sentiment que cette rigueur d'enquête doit être complétée et agrémentée d'un petit peu plus de perspectives et de solutions, parce que ce soit à titre moi personnel, de maman, de citoyenne ou même de réalisatrice, quand j'enquête, j'en peux plus. Enfin, moi personnellement, je n'en pouvais plus d'être toujours à chercher, à mettre le nez dans le prochain scandale sanitaire. Personnellement, ça m'éteignait, ça me fanait,
une vision apocalyptique justement à chaque
oui,
fois.
Oui, parce qu'on a ce prisme. Enfin, on est un petit peu formaté. Enfin, je veux dire, culturellement, je pense qu'on est formaté à voir ce qui ne va pas. La moitié du verre vide. Et puis, dans le monde du journalisme ou dans le paysage audiovisuel, on est dans ce truc où on dénonce. Et c'est très bien. Mais je pense que maintenant, c'est à nous, de la même manière que dans mon film Le Champ des Possibles, tous ces agriculteurs ou citoyens explorent des nouvelles façons de penser leur métier, se remettre en question, pour explorer leur métier différemment. Je pense que dans le monde des médias, que ce soit radio ou audiovisuel, on a aussi ce travail à faire d'explorer une nouvelle façon de transmettre, enfin de travailler la connaissance, comme ces agriculteurs travaillent différemment la terre ou cherchent à la valoriser. Et ben nous, de la même manière, je pense qu'il faut pour moi, la mission est à présent de valoriser l'humain dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il sait faire, dans la façon où, comme à l'échelle individuelle, on fait des erreurs et parfois on a besoin d'erreurs pour comprendre et progresser et avancer.
Alors,
et
moi, ce qui vous intéresse, c'est justement cette réflexion sur les modèles, les différents modèles justement d'agriculture, et on voit que justement il y a la volonté de chercher ce qui s'est bien ou mal passé. Alors il y a cette idée de bonne foi que vous avez mise en avant, Pierre Fromentin, chez les agriculteurs qui justement à cette période d'après, dans cette période d'après-guerre, ont bien fait leur travail. Alors vous dites ça?
Alors non, je dis bien fait à l'époque.
À l'époque, dans le contexte qui était le leur.
Dans le contexte qui était le leur. Sauf que, ouais, l'industrie agroalimentaire n'a pas su évoluer. C'est-à-dire que les règles qui ont été mises en place à cette époque-là restent les mêmes aujourd'hui, malheureusement. Et donc, là où il y aurait besoin de réformer, d'avancer, de réfléchir à quel type d'agriculture on a envie d'avoir plus tard. Quel modèle agricole ?
Alors c'était l'idée aussi peut-être de dissocier les responsabilités, Hélène Médig, de voir justement ce qui était du ressort des paysans, mais aussi des décisions politiques de l'époque ?
Oui, par rapport à l'après-guerre.
Par rapport à l'après-guerre, parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est maintenant cette bascule
Absolument.
Vers un nouveau modèle. Mais donc, vous avez fait un retour historique.
Oui, et puis j'ai surtout beaucoup échangé avec Lydia et Claude Bourguignon, entre autres, qui sont ingénieurs agronomes, qui donc procèdent à une analyse des sols dans mon film. Xavier Mathias, qui est maraîcher et formateur au potager du roi, lui dit que la France n'avait plus faim au moment où l'industrialisation a eu vraiment lieu.
Qu'il n'y avait plus de tickets de rationnement.
Voilà, exactement. Que le boom du remembrement, c'était 1958, enfin... Voilà, c'était terminé depuis un moment.
Donc il y aurait un mensonge politique à l'origine de ce modèle.
Maintenant, les agriculteurs, c'est ce que je répète souvent, ne sont pas responsables. Parce qu'on leur a transmis des techniques, on ne leur a pas transmis la connaissance de leur sol.
Alors une transmission qui est à la fois familiale, mais qui est liée aussi à leur formation.
Aussi, mais c'est vraiment, et d'ailleurs souvent, ça l'est de moins en moins, et c'est très bien évoqué dans le film de Marie-France, quand on évoque les Nima, les non-issus du monde agricole, qui est donc un nouveau mouvement d'agriculteurs qui ne sont pas issus de ce milieu et qui vont le devenir. Mais c'est vrai que cette transmission, c'est beaucoup familial. Enfin, vraiment, j'ai un agriculteur conventionnel dans mon film, Vincent Louot, qui à 14 ans a été brûlé sur le tracteur de son père, qui a perdu tous ses cheveux, a eu 41 de fièvre pendant 15 jours, et malgré tout, il devient agriculteur.
Parce qu'il est tombé dans les pesticides, hein, le grain.
Et il continue à pratiquer son métier avec des produits de synthèse. Alors aujourd'hui, voilà, dans mon film, il active sa transition. Mais c'est vous dire à quel point, voilà, comme vous le dites, il se posait pas de questions et surtout, il n'avait pas le choix. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs conventionnels qui ont envie de changer, mais il va falloir sacrément les aider. Parce qu'un sol ne se régénère pas en moins de 4 à 5 ans. Et voilà, même si on a des urbains aux infirmes d'avenir et tous les personnages magnifiques, pleins d'espoir, qui proposent des solutions et qui actionnent la transition vraiment sur tous les fronts, il va falloir à un moment donné que l'État les rejoigne.
Alors c'est vrai que quand on se situe dans les années 60-70, on a le sentiment qu'il y avait ce mouvement majoritaire. Pourtant, quelques voix de précurseurs se faisaient déjà entendre pour alerter. Je vous propose d'écouter Pierre Rabhi, agriculteur et penseur, qui était au micro de Laurence Bloch dans Colportage. C'était le 4 août 1971 sur France Culture.
L'agriculture organique, disons, en premier lieu, alors, donc, est un réajustement. Elle est à l'écoute des lois de la nature et elle est à l'école de la nature. Elle essaye de comprendre comment agir pour ne pas faire de dégâts. Ce qui fait que elle a été établie sur des bases scientifiques. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit « Bah oui, l'agriculture biologique, mes parents en ont fait, ça consiste à mettre du fumier au lieu de mettre de l'engrais. » C'est absolument faux. Elle est basée sur des connaissances, une meilleure connaissance des phénomènes de la vie, tant au niveau des micro-organismes, au niveau de la vie du sol. Et ayant mieux compris le fonctionnement et le... du sol et des micro-organismes, on essaye de se conformer aux lois qui les régissent, plutôt que de les bouleverser. La forêt, par exemple, produit des arbres depuis des millions d'années, et l'homme n'a pas été là pour sarcler ou faire quoi que ce soit, mais elle a établi par elle-même les cycles qui la faisaient se perpétuer. La perpétuation de la vie est la règle absolue à laquelle on doit se conformer si nous ne voulons pas aller à un certain suicide, vers lequel nous allons d'ailleurs, qu'on le veuille ou non.
Hélène Médic, on est le 4 août 71.
Voilà, donc ça me donne des frissons. Bon, ça me donne des frissons aussi parce que bon, Pierre Rabhi, bien évidemment, est un bouleversement dans ma vie. Et les personnages que j'ai filmés sont vraiment les enfants spirituels de Pierre Rabhi. Voilà, c'est magnifique. Ce qu'ils disent, ce qui est effrayant, c'est que c'était en 1971. Mais ce que je retiens en fait de ce petit extrait, c'est que l'agroécologie et le travail avec le sol et les agriculteurs qui l'expérimentent, ceux qui étaient en conventionnel et qui passent en agroécologie.
Il faudrait peut-être définir ce terme d'agroécologie.
Bah, c'est s'inspirer de la nature, c'est travailler avec la nature.
Travailler avec la nature, ouais, voilà. C'est ça.
Et ils retrouvent tellement plus de sens. Ils retrouvent tellement plus de sens parce que c'est un travail aussi intellectuel. Là, c'est là où la science est un atout aussi. C'est qu'aujourd'hui, on dit souvent l'agroécologie, c'est revenir en arrière. Il s'agit pas de revenir en arrière, il s'agit de retrouver du sens. Et là, la science aide beaucoup les agriculteurs qui sont en bio. Parce que c'est un support magnifique. Ils connaissent beaucoup mieux les sols aujourd'hui grâce à la science que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents.
Pierre Fromentin, on va revenir sur ce système qui a été détaillé. Alors on parle, pour parler du système traditionnel, d'un système qui pressurise, hein, qui n'a cessé de s'intensifier. Alors c'est un système d'exploitation, mais qui s'accompagne aussi d'un système économique pour l'agriculteur, à savoir un système d'emprunt auprès des banques.
D'emprunts phénoménaux et de subventions énormes aussi, surtout même encore aujourd'hui venant de la PAC. Ce sont avant tout, bah, comme dans votre film Marie-France, on le voit très bien, ce sont des agriculteurs qui sans subvention ne peuvent pas vivre, tout simplement ils ne tireraient aucun revenu de ce qu'ils produisent. Donc c'est un système, oui, qui marche sur la tête, qui aujourd'hui on a envie d'aller plus vers des subventions qui se tournent vers un nouveau type d'agriculture à plus petite échelle, agroécologique, bio, etc. Et aujourd'hui, quand moi j'ai plusieurs amis qui sont maraîchers, qui veulent s'installer, qui sont d'ailleurs, qui font partie de l'équipe avec laquelle on a créé le film, et qui sont en train de s'installer, un couple, ils ont beaucoup beaucoup de problèmes financiers pour pouvoir s'installer.
Donc, alors, il y a à la fois les problèmes des sols, hein, vous démarrez, Hélène Médic, votre film là-dessus, en disant 60% des sols arables sont morts, donc il y a ce constat très difficile, mais il y a aussi un constat économique qui est planté assez rapidement, Marie-France Barillet, c'est le constat d'un système qui s'épuise aussi économiquement, c'est-à-dire qu'on a eu un grand mouvement de concentration des terres, d'augmentation de la taille des exploitations, des engrais, etc. Puis au bout d'un moment, le système est devenu de moins en moins rentable.
Oui, et puis c'est surtout que le système ne va pas réussir à se transmettre, parce que justement par ce phénomène d'agrandissement perpétuel des exploitations, qui en plus ont des investissements liés à des machines toujours plus performantes, où on pousse en fait les agriculteurs à s'endetter pour faire travailler toute une économie parallèle, qui est celle qui vend des grosses machines, celle qui vend des semences, celle qui vend des produits, celle qui construit, enfin, donc c'est toute cette économie là qui vit sur le dos de l'agriculteur, qui est en quelque sorte la vache à lait de toute une économie parallèle, qui le pousse à s'endetter, et qui aujourd'hui, ça donne des super grandes exploitations qui, à minima, ce chiffre pour les gens qui vont partir à la retraite, c'est des millions en fait. Maintenant, une exploitation un peu basique, elle coûte 1 million.
Alors, pour une question un peu naïve, qu'est-ce qui n'est plus devenu rentable au bout d'un moment? Est-ce que c'est les prix qui ont chuté, ou est-ce que c'est effectivement le coût des investissements, le coût du capital?
C'est un équilibre qui s'est perdu, à savoir que ce sont des gens qui sont pris sur des marchés dont ils ne maîtrisent absolument rien. C'est des marchés qui se contrôlent dans des bourses internationales, et donc ils n'ont aucun mot à dire sur le prix de vente de ce qu'ils ont, de ce qu'ils vont produire. Et en contrepartie, ils ont des intérêts auprès des banques et des investissements fixes à rembourser, quoi. Donc voilà, finalement, ils n'ont pas été du tout considérés comme des acteurs dont on se préoccupe finalement. Ils ont été Voilà, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont souvent et qu'ils souffrent de ça, d'être taxés aujourd'hui beaucoup de pollueurs, de subventionnés, de alors que finalement c'est un système qui les a amenés à ça, c'est une politique. Et puis c'est aussi le fait qu'on s'est coupé de ce que l'on mange autant qu'on s'est coupé de ceux qui produisent ce que l'on mange. Mmh. Et donc voilà, quand on demande aujourd'hui, les consommateurs demandent aujourd'hui à avoir plus de glyphosate, plus de produits et autres, mais il faut que concrètement ils soient en phase, que les consommateurs soient en phase avec leurs exigences par rapport à leurs producteurs. C'est-à-dire que si on demande à un producteur de révolutionner son mode de pensée, son mode de travail, son exploitation, nous-mêmes, on doit révolutionner ce qu'il y a dans nos frigos, dans la façon dont on cuisine, où on va aller cuisiner.
Et dans une certaine mesure, les prix.
Et qu'il faut accepter que, de la même manière que finalement, ça a été une espèce de victoire de faire en sorte que l'argent consacré par chaque foyer à l'alimentation se réduisait au profit des sorties, des loisirs et autres. Et ben, peut-être qu'il va falloir se dire que finalement, bien manger, ça peut être un loisir incroyable, parce que ça peut être partir faire la cueillette les week-ends, apprendre à manger, apprendre à cuisiner, se faire des tables conviviales. Ça, c'est un art de vivre, et que finalement, c'est un art de vivre qui nous raccorde peut-être à quelque chose de plus vertueux collectivement que de pouvoir aller faire du sport ou je ne sais quel loisir qui me prend de l'argent à défaut de mon bon steak ou de ma bonne carotte ou de mon bon produit laitier.
Hélène Médic, vous avez montré aussi dans votre film que finalement cet épuisement du système économique du côté des producteurs, hein, du côté des paysans agriculteurs qui se sont retrouvés de plus en plus endettés avec des machines de plus en plus chères, il s'accompagnait d'un épuisement des sols d'ailleurs. C'est la scène d'ouverture de votre film.
Mmh. Oui, d'ailleurs je voulais juste préciser par rapport aux produits chimiques, parce que je sais que les agriculteurs en conventionnel en souffrent terriblement, c'est que ces produits chimiques aujourd'hui ils fonctionnent plus, ils résistent à plein de petites bêtes, et c'est là où on marche vraiment sur la tête, quoi. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est essoufflé, donc effectivement ils dépensent de plus en plus, ils ont un budget, j'ai plus exactement le chiffre, mais un agriculteur m'en avait parlé en me disant qu'il avait doublé pratiquement, puisqu'en fait il doit utiliser de plus en plus de produits pour arriver à se débarrasser de ces petites bêtes, puisque c'est comme
donc
ça
même financier.
Entre autres pour compenser le fait que les sols sont en train de mourir et donc que les rendements baissent. Et donc
même financièrement, oui, le modèle n'est plus rentable.
C'est ce que je voulais préciser, c'est qu'en plus les sols endommagés n'absorbent plus rien.
Alors expliquez-nous cette scène d'introduction justement de « On a 20 ans ».
Donc c'est l'analyse des sols de Lydia Claude Bourguignon qui font une analyse de sol sur une parcelle qui n'est plus traitée en chimie depuis 4 ans et qui est, on voit qu'à la surface de ce trou, puisque c'est dans un trou en fait, ils ont creusé pour voir exactement où en était le sol en profondeur, il y a peut-être 30 cm à la surface où ça commence, la biodiversité est en train de repartir. Mais
après
tout le
4
reste,
ans.
Voilà, donc vous voyez le temps qu'il faut, quoi. Et les agriculteurs aujourd'hui sont confrontés à des sols qui n'absorbent plus ces produits chimiques. Ça ne fonctionne plus.
Alors on va écouter un extrait de ce film « On a 20 ans ». Alors là, ça va être du côté de l'initiative politique et des discours, puisqu'on va retrouver le candidat Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle.
Il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer et devenir paysans. Beaucoup. Et qui d'ailleurs veulent adopter des nouveaux modèles de production. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé d'avoir, on parle beaucoup des plans d'avenir, on ne l'a jamais fait pour l'agriculture. On a décidé d'avoir un vrai plan de 5 milliards pour les accompagner, la montée en gamme.
Je vous demande d'où vient ce chiffre. On a fait une petite pétition, Ferme d'avenir, dans laquelle on propose un plan d'investissement d'avenir de 5 milliards, sous la direction d'Hélène.
Non, mais c'est vrai, qui correspond à ce que. Et là aussi, parce que je pense que c'est très important de réconcilier les modèles. C'est-à-dire qu'on a trop longtemps opposé l'écologie et l'agriculture.
Les agriculteurs ont hérité d'un modèle qui a été légitime en son temps, mais qu'il faut absolument réformer, il faut les aider pour le faire. Ils sont tous volontaires. Ils en ont marre d'être accusés aussi d'être acculés, de dire. Et effectivement, ils sont pointés du doigt, ils y sont pour pas grand-chose. Et donc il faut juste leur donner les moyens et les orientations pour le faire. Dire, dans 25 ans, plus de pesticides. C'est tout. Dans 25 ans, plus de pesticides et on y arrive. C'est faisable. C'est faisable. Donc il faut juste le faire. C'est pour le bien de tout le monde. Et si jamais vous avez le loisir d'être ou je ne sais pas si c'est un loisir, en tout cas, l'occasion d'être au plus haut de fonction de ce pays, j'espère que vous saurez donner cette orientation pour que dans 25 ans, on puisse plus dire on n'est pas efficace, on empoisonne nos enfants et puis on détruit la biodiversité. C'est le seul capital naturel qu'on a.
Hélène Médig, un petit peu de contexte du film. On a 20 ans pour changer le monde. Là, c'est Maxime de Rostolan qui se retrouve face à Emmanuel Macron et qui discute avec lui alors qu'il est candidat à l'élection présidentielle.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, puisqu'il est devenu président ? Oui, il s'est positionné, Monsieur Macron, par rapport au glyphosate. Il a décidé, en France, qu'on allait arrêter dans 3 ans. Enfin, il s'agit maintenant de trouver des solutions et de trouver des relais. Donc, je crois que Nicolas Hulot se charge de ça en ce moment.
Maxime de Rostolan, peut-être nous raconter son projet ?
Oui, alors Maxime de Rostolan m'a inspiré le film. En fait, j'ai découvert Maxime à travers un article dans Le Monde en mai 2016 et découvert l'existence de l'association Ferme d'Avenir. Et immédiatement, je lui ai écrit, j'ai eu envie de le rencontrer parce que j'avais l'intuition déjà que leurs actions allaient se développer. Là, tout de suite, maintenant. C'est pour ça que j'ai décidé de les filmer pendant 1 an. Et surtout, ce qui m'a passionnée, au-delà du fait qu'ils actionnent vraiment la transition sur tous les fronts, c'est-à-dire qu'à la fois, ils permettent le financement, de financer des fermes, de créer des formations, parce qu'en fait, l'agroécologie n'est pas transmise dans les lycées agricoles. Donc, ils financent des formations. Il y a tout un aspect donc lobby et influence auprès des politiques, puisqu'ils ont rédigé un plaidoyer avec des propositions de loi qui est donc présentée à Monsieur Macron, candidat au cours de mon film. Et ils créent des fermes, des petites et des grandes fermes. Donc voilà, c'est vraiment sur tous les fronts. Et ce que j'ai trouvé magnifique, parce que je trouve ça universel, c'est que c'est un groupe d'urbains entre 25 et 40 ans qui sortent souvent de grandes écoles et qui ont décidé de faire la révolution. Et je les trouve très représentatifs en fait de cette nouvelle génération qui est en quête de sens.
Alors ça, voilà. Ça apparaît dans vos 3 films, cette idée d'une transition, hein, une transition économique, écologique, un peu les deux combinés. Pierre Fromental, alors vous, quelles sont les alternatives qui justement vous ont plutôt interpellé, celles que vous aviez décidé de saisir ?
Donc nous, on s'est concentré dans notre film sur les transitions avant tout agricole, donc quel genre de système agricole on peut mettre en place. Donc on a déjà parlé de l'agroécologie. On parle aussi de l'agroforesterie, de l'association de culture élevage.
Alors ça, ce sont des techniques, hein, l'agroforesterie.
Ce sont des techniques, tout simplement, oui. L'agroforesterie, c'est simplement de faire pousser des arbres qui peuvent être de culture, que l'on peut utiliser des arbres fruitiers, par exemple, pour simplement faire de l'ombre sur d'autres cultures qui ont besoin d'être un peu moins exposées au soleil. Et en plus, les racines vont permettre de créer toute une biodiversité dans le sol qui va nourrir à nouveau ces plantes, ces légumes si on est sur une exploitation de maraîchage. Donc c'est vraiment une association de plantes qui vont aussi s'auto-défendre, par exemple face à des insectes, face à des parasites où avant on aurait utilisé des intrants et des pesticides. Là,
alors c'est une grande connaissance scientifique, hein, extrêmement complexes, enrichies grâce à des méthodes, justement une connaissance scientifique très approfondie.
Mm-hmm. Ouais, moi j'ai fait le film avec 30 ingénieurs agronomes, donc c'était très très instructif de travailler avec eux, surtout que je venais pas du tout de cet univers là mais il y a beaucoup à apprendre encore, et eux-mêmes apprennent encore tous les jours.
Marie-France Barillet, vous, c'est le modèle de l'agriculture familiale qui vous a intéressé?
Pas vraiment, non, parce que justement, moi, ce qui m'a intéressé, c'était d'aller voir différents modèles, en fait, de montrer que cette transition et cette remise en question se retrouvaient autant sur des profils dont parle Hélène, de néo-paysans qui quittent la ville pour monter leur petite ferme, mais autant chez des grands céréaliers sur 300 hectares qui ont grandi, fils de pays d'agriculteurs et qui ont grandi dans cette culture de la mécanisation et de l'usage d'intrants, que d'éleveurs laitiers qui sont là. Enfin, moi, j'ai voulu montrer que petits et grands, nouveaux et anciens, que le mouvement est en train de se faire simultanément dans de nombreuses couches de la société, et que c'est sûr que si finalement tous ces néo-paysans illustrent le fait que le monde urbain se réapproprie, se réinterroge sur ce qu'il mange, il a aussi eu l'intérêt de mettre la lumière, de participer à mettre la lumière sur finalement un monde paysan qui lui aussi fait sa transition, mais comme bien souvent dans le monde agricole, de façon beaucoup plus modeste, cachée, plus...
En liant d'ailleurs ces deux questions, hein, celles de l'élevage et de la culture, qui ont été souvent dissociées depuis.
Oui, c'est ça. Bah, ça va dans l'idée de... on a spécialisé, hein, comme on spécialise, on a spécialisé le monde industriel où on s'est... voilà, on part de l'idée que quand on fait que un unique produit, bah, on gagne en économie d'échelle. Et puis on a appliqué ce même système-là à l'agriculture qui est devenue une espèce de prolongement de cette logique industrielle. Donc voilà, on a encouragé les gens à ne faire que de la viande, que du maïs, et puis au bout d'un moment, ben on s'est aperçu que voilà ce qu'avant cette association élevage agriculture créait une espèce de synergie et d'échange vertueux entre les productions céréalières et puis les productions de déchets des bovins, ben là il a fallu finalement aller acheter et parfois à l'autre bout de la planète ce qu'on avait avant à disposition quand on n'était pas spécialisé et diversifié. Donc il y a cette idée vers laquelle reviennent de plus en plus de gens, et d'ailleurs on le voit très bien aussi dans
le film de Pierre Fromentin,
exactement, sur l'idée de la diversification, c'est aussi un rempart contre justement les mouvements très aléatoires
climatiques, des marchés aussi.
Des marchés, et que voilà, c'est toujours cette bonne image, la pleine de bon sens paysan, de ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier, quoi, en fait, et d'essayer d'avoir plusieurs cordes à son arc.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligaud, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais me brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe, le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là. Qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Vous écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, par Maïlys Bessery.
Les systèmes de commercialisation de proximité présentent de nombreux avantages pour les agriculteurs comme pour les consommateurs, mais ne peuvent répondre à eux seuls aux besoins alimentaires des sociétés actuelles. D'autres formes de commercialisation restent à construire pour inclure plus d'agriculteurs et de consommateurs afin de nourrir même les plus grandes métropoles. La transformation artisanale des produits agricoles est un autre moyen d'augmenter la valeur ajoutée des produits pour les agriculteurs. C'est aussi un moyen d'élargir la gamme de produits disponibles localement en toute saison.
Pour une petite ferme, même comme nous, c'est avantageux la transformation parce que ça permet d'avoir une valeur ajoutée à notre produit, donc d'engager plus de personnes pour la même superficie de ferme, la même grandeur de ferme. Fait qu'avec 70 vaches, au lieu de faire vivre 3 personnes, on peut faire vivre 6, 7 personnes, 8 avec le comptoir de la fromagerie. Fait que c'est 8 personnes qui ont un salaire à temps plein au lieu de 3.
Consommer localement, à une échelle adaptée à chaque produit, est une façon pour les consommateurs de contribuer à l'évolution des pratiques agricoles et de prendre part à l'orientation de l'agriculture.
Pierre Fromentin, c'est un extrait de votre film « Ceux qui s'aiment, mille excuses pour la confusion entre les films ». C'est vous qui vous interrogez sur l'unité de l'agriculture justement familiale et de ce modèle-là et qui permettrait en réalité de réfléchir à cette transition, comment elle pourrait être faite et comment elle pourrait donner un nouveau rapport au travail employé, au salarié, puisqu'on est à l'intérieur d'une famille. Alors à l'intérieur d'une famille, le rapport employeur-salarié se voit totalement modifié. C'est aussi une manière de penser la petite échelle, le circuit court, le débouché vers des consommateurs locaux.
Oui, et le bon sens, d'une certaine façon également. C'est vrai que par rapport à une entreprise, on ne va pas, comme le dit M. Bainville dans notre film, on ne va pas licencier son fils pour des raisons économiques, on va faire ce qu'on peut pour les garder. Et c'est donc des emplois qui seront fixés sur la terre, fixés dans une zone rurale. Donc ça évite aussi d'avoir une désertification des zones rurales, par exemple en France. Mais... oui, on s'est vraiment penché cette année-là sur l'agriculture familiale parce que c'était l'année internationale de l'agriculture familiale en 2014. Et on a même pu présenter une version raccourcie de notre film de 5 minutes à la FAO devant des députés, des dirigeants du monde entier afin de faire comprendre l'idée, notamment que l'agriculture familiale existe certes, mais qu'elle peut prendre elle-même plusieurs formes.
Alors, elle existe dans le monde entier, c'est ce que vous nous montrez. Vous partez dans un modèle très comparatif entre ce qui se passe en France, au Cameroun. Vous voyagez pour montrer différents types de modèles familiaux d'agriculture.
Exactement, dans des contextes aussi totalement variés, puisque par exemple au Cameroun...
c'est le café et le cacao.
Le café et le cacao, puisqu'on est dans un système capitaliste où le pays va d'abord cultiver ce qu'il peut produire le mieux. Donc, le café cacao au Cameroun, mais on a malgré tout trouvé des maraîchers qui essayent tant bien que mal de vivre du maraîchage. Mais c'est avant tout pour une agriculture vivrière basée localement. Cette agriculture mondialisée, en fait, ne fait aucun sens et transforme les paysages de façon dramatique.
Alors sur la question de l'emploi, c'est une question que vous avez traitée tous les trois dans votre documentaire de manière un peu différente. L'agriculture serait pour vous un secteur qui pourrait absorber ou libérer de la main-d'œuvre en fonction des besoins. Donc ce serait en réalité un secteur qui permettrait justement de se transformer, de s'ajuster, de créer beaucoup d'emplois. Hélène Médic, vous y faites allusion plusieurs fois. C'est d'ailleurs un des moyens pour attirer les politiques dans leurs escarcelles qu'utilisent justement Maxime de Rostolon et ses camarades.
Et toute son équipe. D'ailleurs, notre film est présenté à l'Assemblée nationale ce soir. On est très heureux que les députés puissent le voir chez eux aussi et de pouvoir débattre après. Mais c'est le gros travail du plaidoyer Ferme d'avenir qui a été rédigé.
Alors la question de l'emploi.
Et qui parle de toutes les externalités de l'agroécologie et donc en particulier la création d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, sur une exploitation de 400 hectares, c'est un exemple, il y a 2 personnes. Si on crée des grandes fermes comme Ferme d'avenir le fait aussi, là en Île-de-France, il y a une première ferme qui va être créée et qui va être multipliée après en France, qui va donc, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, être en polyculture élevage, elle va engager 10 personnes sur 70 hectares. Tout est interdépendant, en fait.
Alors, qu'est-ce qui pourrait permettre de créer de l'emploi quel type de ferme se permettrait justement de sortir de ce modèle traditionnel
Tous les modèles sont différents, hein, parce que, encore une fois, je parle pour Ferme d'Avenir, ils créent évidemment des petites fermes sur 3 hectares aussi, et donc c'est 3 à 4 salaires. Voilà, ce qui permet, en fait, tout ce qui n'est pas dépensé en produits aussi, en produits de synthèse, c'est déjà une grosse économie, et le moins mécanisé possible, c'est encore une autre économie. Donc c'est un travail de la terre, donc avec de la main d'œuvre, mais aussi avec des formations qui permettent aux agriculteurs et aux maraîchers de mieux connaître la science des sols.
Mais alors, ça serait un secteur qui aurait besoin de plus de force de travail ?
Ben, c'est surtout qu'il y a beaucoup de demandes. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas répondre à la demande du bio et on a 5 millions de chômeurs. Donc, pourquoi ne pas former des personnes qui ont envie d'être agriculteurs ?
Alors,
On a des territoires qui se vident aussi. Et là, il y a une espèce aussi de dynamique vertueuse aussi avec le déploiement de cette agriculture qui remettrait des gens dans les campagnes. C'est aussi par rapport à cette idée d'un vide rural qui se met en place, de services qui disparaissent. Et ben, quand on fait en sorte que finalement, en vendant là l'exemple que vous avez donné là avec cette jeune femme qui dit que voilà, il y aurait pas cette transformation de fromage sur l'exploitation, il y aurait seulement 3 ou 4 salaires, là il y en a 6 ou 7, complètement le double, et puis donc du coup c'est un point de vente, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent acheter un magasin, qui viennent
c'est créer du lien,
c'est créer du mouvement, c'est recréer des écoles, susciter, enfin voilà, c'est faire vivre les territoires, et ça je pense que globalement, et faire vivre des territoires, c'est entretenir des paysages, c'est entretenir une identité qui est la nôtre. Et donc,
alors Marie-France Barré, c'est une question que vous travaillez tout le long de votre film, c'est la question de ceux qui aussi décident de devenir paysan agriculteur. Donc c'est aussi la transition entre un métier et un autre, un métier qui ne serait pas que, comme on en a l'image, un métier transmis familialement, mais un métier qu'on pourrait apprendre de A à Z et peut-être même à n'importe quel âge.
Oui, alors ça recoupe véritablement ce que montre Hélène dans son film aussi et les valeurs que porte Ferme d'Avenir, parce que je pense que ce qui se passe et ce qui est assez beau, c'est que finalement le paysan qui est pourtant c'est vraiment le socle non seulement de notre identité, mais c'est, je veux dire, le seul métier dont on ne peut pas se passer. Aucun d'entre nous, on peut se passer d'animatrice radio, de réalisateur.
Ça c'est vous qui le dites, pour la démocratie, les médias sont utiles aussi.
Non, mais je veux dire, pour survivre, si on va aux besoins très très primaires, la seule fonction dont on peut pas
de manger.
Voilà, pour vivre, on a besoin de respirer et de manger. A priori, respirer, on peut le faire en général tout seul. Manger, en général, on a besoin que quelqu'un nous produise à manger. Donc c'est les seuls dont on est véritablement dépendant, et c'est par une espèce d'absurdité un chemin de l'histoire qui fait que c'est devenu les gens les plus déconsidérés, moqués parfois, et puis voilà, il y a eu pendant longtemps cette notion du paysan un peu associée au bouseux.
Mais alors là, vous nous racontez l'inverse.
Et bien justement, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est très enthousiasmant, c'est cette idée que finalement, globalement, voilà, on est en train de se souvenir que la base de notre existence, c'est respirer et manger, et que je pense que ce chemin-là fait que être paysan, ça peut devenir glamour, je dis ça avec des grosses guillemets, mais voilà.
Un ancien pilote de ligne, des anciens pharmaciens, infirmiers, des gens, des cadres supérieurs.
Voilà, tout le profil, et là, que ce soit les gens chez Ferme d'Avenir ou là dans le centre de formation dans lequel je vais faire en Sainte-Marthe, et d'ailleurs dans tous les centres de formation aujourd'hui, les profils sont vraiment très 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 larges. Il y a des gens de tous les âges, de toutes les provenances. Je pense qu'il y a un appel collectif, et puis c'est sans doute le fruit de notre histoire, de notre évolution collective, qui fait que voilà, on revient vers ça, et que ces gens, à mon sens, ne sont pas des visionnaires, nous non plus d'ailleurs, en parlant d'eux, mais ils répondent à l'ère du temps qui va de sens là, dans ce sens-là, je l'espère.
J'avais un très bon salaire en tant que cadre à Paris, il y a quelques années de ça. Et donc la richesse, c'était d'avoir le dernier sac à la mode, parce que la couleur de l'année avait changé. C'était, moi j'avais une collection de bottes hallucinantes, des habits en conséquence, parce que quand on a des responsabilités, il faut qu'on soit à la hauteur de cela. Et maintenant, j'échangerai toute ma garde-robe de l'époque contre ça.
Les priorités de Katia ont changé. Maintenant, elle tient à enseigner le bon geste à ses futurs paysans. Désherber, biner, sarcler, des travaux répétitifs qui abîment le corps s'ils ne sont pas faits avec précision.
Ton manche, tu le prends déjà plus bas. Tu auras moins d'efforts à faire que si tu le prends là. Et descends plus. Et par contre, aide-toi pareil. Aide-toi avec ton pied.
Aide-toi, le ciel te droit.
Parce que sinon, c'est tout votre dos qui va prendre là. La formation, c'est aussi se confronter au quotidien du maraîcher. Il faut pouvoir tenir tous les jours de la semaine, toute la semaine, de toutes les semaines de l'année. C'est pas une activité qu'on fait en hobby le week-end. Tant mieux. Il faut des potagers, il faut des gens autonomes déjà alimentairement. Nous, on est là pour produire. Donc, il faut un rythme et il faut le suivi derrière. Et ça fait partie du travail, quoi. Clairement, il faut qu'ils puissent se confronter à ça sur une journée entière, sur plusieurs heures. C'est pas juste biner 10 mètres, c'est biner 80 mètres de long, quoi. Est-ce que déjà moi, je suis capable, en tant que stagiaire, même si c'est ce que j'ai envie de faire, est-ce que physiquement je suis capable de le faire avec 40 degrés au soleil, ou alors avec moins 10 degrés et les pieds dans la boue, quoi. C'est aussi ça, et c'est important qu'ils le fassent, qu'ils se rendent compte de leur capacité physique.
Alors, c'est un extrait de votre film Le Champ des Possibles, Marie-France Barrier. On entendait Katia Taman, qui est agricultrice et formatrice. Qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, de ces transitions professionnelles qui se faisaient et de ce retour, justement, vers les milieux ruraux? Comment est-ce que se passent, justement, les premières années? Bah alors, aussi bien économiquement,
c'est loin d'être facile. C'est sûr que il y a les gens qui vont dans ces formations ou qui se lancent dans ce chemin, il y a un appel du cœur, il y a un besoin de sens, il y a besoin de se reconnecter, ça vient des tripes, quoi. Après, c'est vrai que concrètement, déjà c'est remettre à plat tout ce qu'on sait, enfin c'est réapprendre un nouveau métier qui justement est très complexe, parce que quand on veut travailler avec la nature et pas contre elle, et ben finalement c'est incroyable tout ce qu'il y a à apprendre, à maîtriser et à intégrer. Donc il y a un gros travail d'apprentissage. Et puis après, c'est vrai que le système agricole n'est pas encore n'encourage pas, n'aide pas. Enfin, c'est difficile. Après, il faut y mettre du cœur et de patience. Je montre aussi dans le film la ferme de la Mare des Ruffaux, où voilà, à force de travail, c'est possible si on entourait des gens aussi, des bons clients qui viennent, qui vous soutiennent, qui s'approvisionnent régulièrement et donc qui stabilisent vos revenus. Mais c'est quand même, c'est pas la petite maison dans la prairie. Il faut s'attendre à devoir beaucoup travailler. Mais ce que je veux dire, ce que Hélène disait quelque chose en off là, c'est le fait que cette nouvelle vague des nouveaux arrivants.
On va peut-être lui laisser dire en voilà. In.
Oh, non, Hélène me dit, laisse, finis ta phrase, Marie-France. Non, mais tu en parles très bien.
C'était l'idée que aujourd'hui ces gens viennent là pour répondre à un besoin qui est vital pour le pays, à savoir que comme elle disait, c'est un chiffre assez connu, que dans 10 ans plus de 40% des agriculteurs actuels partiront à la retraite.
Alors ça pose d'ailleurs tout un tas de problèmes.
Ils ne sont pas remplacés pour le moment. Il n'y a personne qui veut les remplacer, parce qu'en plus, leurs exploitations sont irrachetables pour la grande partie, parce qu'elles sont beaucoup trop chères.
Ça, c'est une question que vous creusez d'ailleurs dans votre film, justement, Pierre Fromentin. C'est la question de l'accession à la propriété et de comment, quand on n'est pas fils d'agriculteur, accéder justement à ces terres.
À des exploitations qui valent 1 million d'euros quand on a 25 ans et qu'on sort de l'école. Maintenant, c'est quelque chose de très très difficile. Il faut faire des prêts à la banque, il faut rassurer les banquiers. C'est pas très drôle. Heureusement, il y a des associations qui existent comme Terre de Lien, qui permettent justement d'aider ces jeunes-là, car cette association va acheter des terres et les mettre à disposition, les louer en fait à des jeunes agriculteurs qui eux vont pouvoir ici expérimenter, parce que c'est quelque chose d'assez idéaliste de se dire « Ah, j'ai envie d'être maraîcher ou j'ai envie d'être paysan », mais comme vous le dites, une fois qu'on est sur la terre, c'est des journées de 10 heures, de 12 heures, 6, 7 jours par semaine, quand on a des week-ends, donc c'est vraiment quelque chose de très difficile à faire, même si c'est idéaliste en tout cas. Donc il y a aussi cette période de test qui est faite dans cette association.
Oui, vous nous expliquez ce que c'est que cette période de test?
C'est à peu près 2 ans, ça dépend. Ça peut être 1 an dans une école, ensuite ça peut être 2 ans, Je ne suis pas non plus spécialiste sur la question.
Marie-France Barrier.
Oui, je voulais revenir sur l'action de Terre de Liens qui, à mon sens, est vraiment cruciale dans ce mouvement-là, à savoir que l'accès à la terre est le vrai enjeu des années, des décennies à venir et que, en effet, Terre de Liens achète des terres, mais elle l'achète par le biais de citoyens qui font des dons et des épargnes solidaires. Donc, en fait, il y a aujourd'hui un gros mouvement à chacun aller, les AMAP se développe parce qu'on a cette idée d'accompagner cette agriculture paysanne, de manger bio, de manger de saison.
Ah, il y a finalement la question des circuits, mais pas uniquement. D'ailleurs, Hélène Médic, c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est-à-dire il y a aussi l'idée d'échapper aux banques avec ce que développe Maxime de Rostolan, l'idée de, par exemple, aller voir les Intermarchés du coin, leur proposer d'investir.
Oui, alors c'est vraiment la valeur qui m'a séduit au sein de Ferme d'Avenir, c'est qu'ils réunissent les mondes. Donc les acteurs historiques depuis 40 ans qui se sont battus pour le bio, heureusement ils ont été là, ils sont merveilleux, parce que sinon on serait pas à 6% comme on l'est, même si c'est très peu, mais sans eux on serait à zéro. Simplement, Ferme d'Avenir réunit les mondes, effectivement, ils travaillent avec tout le monde, avec les représentants de la grande distribution, avec les politiques, avec les entrepreneurs qui financent cette transition en fait, parce que les banques aujourd'hui ne financent pas la transition.
Donc ça va de l'investissement jusqu'au débouché et au circuit court, vous parlez de la MAP, c'est pas le seul exemple.
Oui, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des AMAP qui connaissent un franc succès et c'est génial parce que les AMAP, c'est assuré, c'est un petit peu, ça remplace le travail des banques et des assurances. À savoir, on dit que par la MAP, le client devient la banque et l'assurance de son maraîcher en lui accordant des avances de trésorerie au moment où il en a besoin, c'est-à-dire pour acheter les semences et autres. Et c'est son assurance parce que quoi qu'il arrive, que on ait un bon été ou un été complètement pluvieux où il n'y a pas de récolte, il aura son revenu. Donc ça, c'est une chose importante. Mais pour ceux qui veulent participer en amont, Terre de Liens, c'est à mon sens vital parce que ces gens placer son épargne solidaire pour que des terres échappent à la spéculation foncière et soient restent dans cette vie paysanne avec une agriculture bio et autres. Voilà, c'est juste un appel aux citoyens qui veulent être actifs. Ben là, il y a un vrai espace.
Et c'est l'heure des nouvelles de l'écho. Arjuna Andrade, bonjour.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous.
Vous allez nous parler aujourd'hui du Tour de France des alternatives.
Absolument, dans un film documentaire sorti en novembre dernier et intitulé Irintzina, comme le cri de ralliement des bergers basques, les journalistes Sandra Blondel et Pascal Henquin ont décidé de suivre Alternativa, un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale. Cette aventure s'ouvre sur l'échec de la COP19 à Copenhague qui s'était fracassée contre l'écueil de la politique à l'ancienne. Le constat est alors simple, la lutte contre le changement climatique et le changement des pratiques ne peut venir que d'en bas. Il faut miser sur une constellation d'alternatives au niveau local qui seules pourront avoir une incidence globale. Le premier coup d'éclat du mouvement a été l'installation du premier village des alternatives à Bayonne en octobre 2013. Ce jour-là, près de 12 000 personnes se réunissent pour réfléchir aux actions et aux initiatives pour la justice sociale et climatique. Il faut dire que le GIEC, groupe d'experts placé auprès de l'ONU, venait de publier un énième rapport alarmiste sur les risques liés au changement climatique.
Une mobilisation qui a culminé d'ailleurs en septembre 2015.
Absolument. Dans l'intervalle, les rassemblements Alternativa ont essaimé partout en France avec des centaines d'associations et des milliers de bénévoles. Et en juin 2015, l'association a organisé un grand tour de France à vélo, rassemblant près de 1500 personnes. De Bayonne jusqu'à Paris, les cyclistes allaient à la rencontre de la population pour discuter d'alternatives concrètes en matière de transport, de logement ou encore d'alimentation. À leur arrivée, ce sont près de 60 000 personnes qui étaient rassemblées place de la République pour fêter la fin du tour, mais aussi et surtout préparer leurs actions en vue de la COP21 quelques mois plus tard à Paris. Désormais, l'association se concentre sur la mise en lien de ces initiatives locales afin de créer une émulation et d'inciter au changement du plus grand nombre. Alternativa compte ainsi lancer un guide de création des lieux alternatifs pour aider au lancement de bars associatifs, ressourceries et autres Fab Labs. Ils travaillent également sur une plateforme des alternatives, je cite, permettant d'accéder en un clic à une cartographie des initiatives locales la plus exhaustive possible.
Un engagement qui se traduit aussi par des actions de désobéissance civile.
Oui, ce sont les fameuses deux jambes de la démarche d'Alternativa qui a choisi non seulement de prêcher la bonne parole, mais aussi de mener ces fameuses actions de désobéissance civile. en ciblant notamment les multinationales et les banques responsables en grande partie du dérèglement climatique. Le documentaire s'ouvre ainsi sur le procès de John Palais à Dax en janvier 2017, qui était poursuivi par la BNP Paribas pour vol de chaises dans l'une de leurs agences. Finalement relaxé par la justice, le militant cherchait à dénoncer l'évasion fiscale pratiquée par l'institution. On se rappelle aussi des activistes qui en 2014 avaient déversé une tonne de charbon devant une agence de la Société Générale, obtenant ainsi l'arrêt de son financement d'Alpha Coal, une mine de charbon en Australie. Selon les documentarismes, le film raconte l'émergence d'une nouvelle génération de militants qui entend transformer les imaginaires par l'action. Et ce projet repart sur les routes avec le lancement de l'édition 2018 du Tour Alternativa. Tout au long de son périple, il ira à la rencontre de ceux qui construisent et s'indignent avec pour mot d'ordre « changer le système, pas le climat ».
Et aujourd'hui, c'est jeudi, Guillaume Duval de la rédaction d'Alternatives économiques, notre partenaire, est parmi nous. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Vous allez nous annoncer le chiffre du jour.
47,5 milliards. C'est la hausse qu'a enregistré le produit intérieur brut, le PIB, de l'économie française en 2017 selon l'INSEE. Alors quel est le rapport avec le thème de la semaine des fruits du capitalisme, direz-vous ? Eh bien ce sont là les fameux fruits de la croissance, comme on dit, et il est intéressant de voir comment ils ont été répartis.
Et donc l'an dernier, la récolte a été bonne, Guillaume ?
En effet, comparé aux années qui ont suivi la crise de 2008, la croissance de 2,2% enregistrée l'an dernier est élevée. François Hollande et ses amis revendiquent la paternité de ce retour de la croissance, mais en réalité il est dû pour l'essentiel à un bas prix du pétrole et des matières premières, combiné à la politique monétaire très expansive de la Banque Centrale Européenne. Cette croissance ne trouve son origine que dans une hausse très modeste finalement de la consommation des ménages, 1%. C'est surtout l'investissement qui repartit plus nettement, tant dans les entreprises que pour les ménages qui se sont remis à acheter ou à construire des maisons. Ce redémarrage a entraîné la création de 270 000 emplois l'an dernier, bien que les emplois publics aient, eux, baissé de 8 900 postes, du fait notamment de la forte diminution des emplois aidés en fin d'année. Ce qui a permis de faire reculer le chômage de 184 000 personnes et de faire passer son taux sous la barre des 9%. Ce rebond a aussi permis de réduire davantage que prévu au début les déficits publics passés de 3,4 points de PIB en 2016 à 2,6 en 2017. Enfin, le pouvoir d'achat des ménages a augmenté globalement de 1,3%, mais comme la population continue de s'accroître en France à un rythme relativement soutenu, contrairement à ce qui se passe chez la plupart de nos voisins, ce pouvoir d'achat ne s'est accru en réalité que de 0,7% en moyenne par personne.
Donc à vous entendre, cette bonne récolte serait une excellente nouvelle pour les Français.
Pas forcément, et c'est là que tout se complique. Tout d'abord, on ne sait pas encore comment ces gains ont été répartis, si les inégalités se sont accrues ou non. Cela ne devrait cependant pas être le cas, parce que quand le chômage recule, la pauvreté a tendance, elle aussi, à le faire. Et les mesures fiscales très inégalitaires prises par Emmanuel Macron n'ont pas encore eu d'impact négatif l'an dernier. Mais surtout, parce que cette croissance supplémentaire s'est traduite aussi par davantage de pollution, d'artificialisation des sols, d'émissions de gaz à effet de serre, alors que celles-ci ont déjà accru en France en 2015 et en 2016. Nous ne sommes toujours pas parvenus à découpler réellement activité économique et dégradation de notre environnement. Au contraire même, les politiques d'austérité imposées partout en Europe depuis 2011 ont donné un coup d'arrêt aux efforts engagés en matière de transition énergétique et de conversion écologique. Nous nous tirons une balle dans le pied. Si nous ne nous occupons pas de toute urgence d'entretenir et de préserver davantage nos sols, notre eau, notre air, notre biodiversité, les prochaines récoltes de fruits de la croissance risquent d'être très insuffisantes et sacrément indigestes.
Non, je ne veux plus jamais travailler. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller.
Philippe Catherine, la banane, merci Marie-France Barrier, Pierre Fromentin et Hélène Médic d'être venus aujourd'hui. Je renvoie nos auditeurs à vos filmographies disponibles sur le site de l'émission. Émission que vous pouvez réécouter en podcast, Entendez-vous l'écho, sur le site franceculture.fr, mais aussi vous pouvez vous abonner à nos programmes Twitter en nous suivant avec le hashtag Entendez-vous l'écho. On se retrouve lundi pour une nouvelle série consacrée aux inégalités.
Laissez-moi, 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 laissez-moi.